Ryan Reynolds here from Mint Mobile.
With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Bonjour à tous et bienvenue dans le Rendez-vous Jeu, l'émission bimensuelle où on vous résume toute l'actu du jeu vidéo et de l'industrie du gaming. C'est parti! Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Jeu, l'émission qui couvre toute l'actu du jeu vidéo. On vous résume toutes les informations intéressantes et importantes et en plus on les analyse pour que vous compreniez tout ce qui se passe dans cette industrie passionnante du jeu vidéo. Je suis Patrick Béja, votre animateur, et je suis avec quelqu'un qui revient étrangement quand les vacances sont en cours. Comment vas-tu, Jean, de Papa à quoi tu joues?
Bonjour Patrick, ça va très bien, mais je me demande si c'est à cause des vacances ou si c'est parce que mon nom de famille c'est Noël.
Ah, effectivement, et je suis sûr que personne n'a jamais évoqué la chose.
Évidemment, c'est pour ça que je le dis, parce que personne n'a jamais.
Personne n'y pense, mais quel génie, j'y avais jamais pensé, c'est vrai. Donc effectivement, Jean Noël est avec nous pour Noël. On fait original. Merci d'être là. Comme les gens qui écoutent l'émission régulièrement le savent et s'en souviennent, tu fais une émission qui s'appelle « Papa, à quoi tu joues ?», dont on peut se douter du sujet et dont on parlera un petit peu plus en fin d'émission.
Ça marche.
Mais en attendant, on a un programme à la fois chargé et pas trop lourd à évoquer. En fait, il n'y a pas, à mon sens, une ou deux news importantes qui sortent du lot, mais tout un méli-mélo de plein de petites news intéressantes qu'on va évoquer. Certaines un petit peu spécialisées, d'autres qui toucheront absolument tout le monde. Mais je te propose qu'on se lance tout de suite dans cette formidable aventure du jeu vidéo.
Lançons-nous, mais pas trop fort, sinon ça fait mal.
Ah, je sens que tu as écouté l'ami Cédric Bonnet, toi.
Ah non, même pas.
Oh, il a tendance à faire la blague du « Allez, on se lance », et puis il fait « Oh !»
Ah oui, c'est vrai.
C'est la blague de Cédric. Bon, bah écoutez, on va commencer avec un jeune homme qui lui aussi s'est lancé d'une manière un petit peu attendue, finalement, puisqu'il s'agit de Hideo Kojima, qui a enfin, après une interminable agonie d'un an chez Konami, qui a enfin quitté officiellement la société et qui a pas perdu de temps pour annoncer la création de son nouveau studio. Et alors, son nouveau studio, on s'en doutait un petit peu, hein, c'est pas quelque chose qui est très surprenant. Il y a deux choses qui sont pas horriblement surprenantes non plus, mais dont on attend les détails. C'est le champ d'activité du studio et son partenaire. Alors, on se demandait s'il allait chercher un autre développeur, faire du crowdfunding, ce genre de choses. Ils ont confirmé que, enfin, c'est Sony qui a confirmé, en fait, que ça serait en partenariat avec Sony qu'il développerait sa nouvelle licence, qui serait complètement différente de, bien sûr, Metal Gear Solid, puisque Metal Gear Solid appartient toujours à Konami, mais il a dit que ça serait une expérience vraiment différente. Et donc, ça sera en partenariat avec Sony. Et ils auront une exclusivité de quelques temps au moins sur le titre qui sortira pour la PlayStation 4. Il sortira ensuite au moins sur PC, mais bon, ils n'ont pas évidemment donné plus de détails que ça. Il a dit aussi qu'il se concentrerait sans doute dans un deuxième temps, s'il le pouvait, sur des films ou des séries télé ou des médias comme ça, un petit peu plus cinématographiques. Ça non plus, c'est pas très surprenant parce qu'on sait très bien que Kojima est un immense fan de cinéma. D'ailleurs, la bio de son Twitter anglophone, c'est « Mon corps est composé à 70% de films » ou un truc comme ça. En plus, ça se sent vraiment dans ses productions. Mais voilà, donc il a choisi son partenaire. Il a vraiment pas perdu de temps pour l'annoncer. Ça sera Sony, ce qui est pas surprenant puisque c'est le développeur japonais, enfin le constructeur japonais dont les développeurs japonais sont très proches.
Bon. Moi, ça me fait plaisir parce que ça fait énormément de temps que j'ai énormément de mal pour ce monsieur parce que la situation dans laquelle il était, c'était même là récemment pour les Games Awards. Et j'avais fait un commentaire dans les notes du rendez-vous jeu il y a quelques mois en demandant si, parce que voilà, maintenant Konami me hérisse le poil, et c'était par rapport à Metal Gear 5. Si je veux soutenir Kojima, est-ce que j'achète Metal Gear 5 ou est-ce que je fais pas le jeu de Konami, etc. Et donc, enfin voilà, ça y est, Kojima a son studio, machin, je vais pouvoir le soutenir proprement.
c'est une question compliquée, hein, parce que on parlait justement, tu disais les Game Awards, on en parlait l'année dernière, à l'épisode précédent, et y a des gens qui ont dit, avec raison quelque part, que Konami est dans son droit et qu'il n'y a pas de raison qu'il laisse Kojima faire ce qu'il veut, et que c'est quand même une société, et que la société, bah voilà, c'est pas les bisounours, quoi. Et c'est vrai que en même temps, Konami, on a vraiment l'impression qu'ils trahissent leur public, quoi. Ils s'écartent, ils vont plutôt vers les jeux mobiles un petit peu faciles, ils vont vers le pachinko, il y a cette
retourne vers le pachinko.
Disons que tous les développeurs font un peu de pachinko au Japon, mais là, on a vraiment l'impression qu'ils ont fermé les studios de développement de, entre guillemets, vrais jeux. Ouais. Donc il y a eu des rapports de journalistes selon lesquels l'ambiance chez Konami était complètement horrible, et que il s'était fait de brimades et d'engueulades, et de, donc il y a plein d'indices qui laissent penser que, même si c'est vrai qu'il faut rester neutre et qu'on sait jamais qui est le méchant dans l'histoire, bah il y a plein d'indices qui laissent quand même penser que c'est pas forcément Kojima qui a le plus de tort à son actif, même si on peut se douter qu'il y a des problèmes de développeur qui prend ses rêves pour des réalités et qui développe un jeu pendant des années et des années et qui peaufine tout le temps et qui n'arrive jamais à terminer, etc. Et que donc Konami a mis un arrêt à tout ça. Bon, il y a quand même beaucoup d'autres indices qui laissent penser que c'est quand même Konami qui gère pas très bien les choses de leur côté. Et puis forcément, l'idée que de voir des licences comme Silent Hills... Metal Gear enfin il y en a plein chez Konami, on en parlait souvent, mais ouais. Castlevania, etc., devenir un petit peu compliqué, enfin qu'on ne les verra peut-être plus dans des jeux corrects, bah forcément ils se retournent contre leur public, et du coup on a tendance à prendre parti pour Kojima, mais bon, ouais, on verra ce que ça donne. Maintenant, en fait, je pense qu'on aura la réponse, parce que on va avoir le studio est complètement indépendant de Sony. On ne sait pas ce qu'il en sera pour les IP spécifiquement, mais si elles sortent ailleurs que sur PlayStation 4, on se doute que Sony ne les possédera pas. Mais là, du coup, on va voir ce que fait Kojima quand il est tout seul. On va voir s'il va être capable de finir un jeu et de le sortir, quoi.
Alors, tout seul, non, parce qu'il y a ce partenariat avec PlayStation, et je pense que il est important, ce partenariat, parce que je pense que Kojima, enfin, tu l'as dit, part tellement dans tous les sens qu'il a besoin quelque part d'un garde-fou. Et je pense que PlayStation est là justement pour faire ce garde-fou, et pour, parce que quelque part il a conscience de ça, il sait qu'il est ambitieux, et voilà. Et je pense qu'il sait qu'il n'est pas facile à vivre de cette ambition, et il a besoin de ça aussi.
Ouais, peut-être qu'il s'est dit lui-même, vaut mieux que j'ai un adulte dans notre relation pour me dire à quel moment il faut que je m'arrête, et que au moins avoir ce contre-pouvoir qui est important. Bon, en tout cas, on verra l'avenir de Kojima Productions. Je suis sûr qu'on entendra parler bientôt de leur projet dans l'année 2016. Il y aura, à mon sens, une petite annonce, mais bon, peut-être au Game Awards, justement, avec Jeff Keighley. Undertale, est-ce que tu as déjà entendu parler d'Undertale ?
Oui, beaucoup en ce moment, c'est bizarre,
ouais,
tiens.
C'est dingue, hein. alors, je voulais l'évoquer parce que c'est vrai que c'est un jeu qui a pris l'internet by storm, comme on dit en anglais. Alors, cette news me donne l'occasion de le faire. En fait, il a reçu le prix du meilleur jeu chez Game FAQ, bon, qui est un site parmi d'autres, le prix du meilleur jeu de tous les temps. Et c'est donc Undertale qui est le gagnant. Alors, ils ont fait toute une série de c'est une sorte de championnat avec plein de rounds et de brackets et de bref, à la fin, les semi-finalistes, c'était Undertale et Zelda Ocarina of Time. Avant ça, il y avait Smash Bros et Super Mario RPG. Il y avait encore avant Metal Gear Solid 3, A Link to the Past, Super Mario 64, Final Fantasy 7. Bon, ensuite, c'est les gens qui sont des fans de Game FAQ qui votent. Hein. On voit quand même qu'il y a beaucoup de Nintendo, ce qui est pas surprenant, mais voilà. Mais c'est donc Undertale qui a gagné. Est-ce que tu y as joué à Undertale? Est-ce que tu sais ce que c'est?
Alors, je sais ce que c'est. J'y ai pas joué, mais je sais ce que c'est. Bon, moi, qui remporte un prix, ça me gêne absolument pas. Et il l'a sûrement mérité de par ce système de match là. Mais en fait, c'est l'appellation du titre, moi, qui me gêne.
L'appellation du titre, c'est-à-dire le meilleur jeu de l'histoire.
Ouais, voilà, c'est ça.
Oui, bon, c'est vrai que c'est un jeu qui est sorti, mais il n'y a pas très longtemps, en fait, il y a un mois ou deux max. Et alors, qu'est-ce que c'est? On va vous expliquer quand même ce que c'est que ce truc. C'est un jeu vraiment indépendant. Je sais qu'il y a des gens qui aiment pas qu'on fasse l'appellation indépendant, mais que voulez-vous, c'est un petit peu comme ça. C'est comme, moi, ça me fait penser aux films d'auteur des années 70 de la Nouvelle Vague, en fait. C'était vraiment quelque chose de différent. Et là, j'ai l'impression que les jeux indés, c'est presque un petit peu ça, c'est une sorte de, par leur style, ça définit un petit peu leur catégorie. Et donc là, c'est bah du pixel art, et pour le définir, le meilleur moyen que je trouve, c'est une sorte de Legend of Zelda un petit peu réflexif sur le jeu vidéo et ce qu'est le jeu vidéo. On a des jeux comme ça, surtout chez les indés, qui essayent de faire des choses un petit peu plus intelligentes que simplement une histoire comme on pourrait l'imaginer si on continue cette comparaison avec le cinéma. Les triple A, c'est les blockbusters, les films d'été où, bon, on n'a pas forcément des réflexions philosophiques très compliquées.
Tu peux poser ton cerveau à côté, quoi.
Voilà, c'est ça, même si ça peut être, moi, bon, je vais dire ce que j'en pense juste après, mais on peut poser son cerveau, on s'amuse bien, et puis voilà. Et les jeux indés, c'est un petit peu les films d'auteur où on a une réflexion sur le média, sur ce que veut dire, sur le sens de la vie, sur, bon, il y a plein de, et ça peut être très drôle et très intéressant aussi, hein, ça veut pas forcément dire chiant. Mais et puis bien sûr, hein, un jeu indé, c'est généralement fait par une équipe beaucoup plus petite qui se compte sur les doigts d'une main ou un tout petit peu plus quand les triple A sont faits par des équipes qui comptent souvent des dizaines voire des centaines de personnes. Undertale, donc, je disais, c'est une sorte de Zelda où on joue une petite fille qui tombe dans le monde des monstres. Il y a les monstres qui vivent sous terre, d'où Under, et les humains qui vivent sur terre. Et donc, elle tombe dans le monde des monstres et il y a plein de trucs qui lui arrivent. Et là où, je vais donner juste un exemple de la manière dont le jeu tord un petit peu le cou au code du jeu vidéo habituel, c'est le tout début. On tombe sur une petite fleur qui est toute gentille et qui dit « Ah, bonjour humain, je vois que tu es tombé chez nous. Allez, je vais t'aider à découvrir comment ça marche ici parce que, attention, hein, c'est pas facile. » C'est la petite fleur qui fait ça. Et elle te dit « Alors voilà, ça c'est toi, il y a ton petit cœur qui apparaît, les graphismes sont très minimalistes, hein, on est entre... Allez, 16 bits en général et 8 bits, même pas, 4 bits pour les phases de combat. On a un petit cœur au milieu d'un petit écran et elle envoie des petites boulettes et elle te dit « Ah, ça, c'est des boulettes d'amour, tu dois les attraper pour pouvoir grandir en niveau, en LV. » Et le LV, elle dit que c'est love. Et elle t'envoie ces petites billes et évidemment, en fait, c'est des trucs qui te font mal et qui te tuent. Et donc, si tu te les prends dans la figure, si tu les prend comme elle te le dit, elle se transforme en fleur super méchante. Elle te dit ah je t'ai bien eu, il faut tuer tout le monde machin. Enfin bref, ça joue un petit peu avec les codes du tutoriel du machin. Il y a des squelettes gentils qui sont des monstres mais qui veulent pas être méchants. Enfin il y a plein de trucs comme ça. Et on en entend tellement parler de ce jeu depuis un mois que je me suis dit c'est pas possible. Généralement c'est pas mon truc, mais il faut que je l'achète et que j'y joue. Ce que j'ai fait, j'y ai joué peut-être, je sais pas, une heure et demie, un petit peu plus. Et franchement, je vais faire hurler les fans d'indépendants, de jeux indés. Mais je comprends pas quoi. C'est un jeu. Je comprends pourquoi il est intéressant. Et pourtant, Dieu sait que j'ai vanté les mérites d'un jeu comme Stanley Parable ou ce genre de truc. Donc j'aime bien certains jeux qui sont un petit peu indé, un petit peu réflexif, qui sont pas forcément des triple A. Justement, j'aime bien. Je sais pas moi.
Gone Home.
Gone Home, voilà, qui est l'un de mes jeux favoris de l'histoire. Merci, Jean. Mais là, je comprends pas l'intérêt. Je vois pas. C'est enfin, si je vois que c'est un petit jeu sympa, mais je comprends pas pourquoi tout le monde est aussi émerveillé par ce truc. J'ai l'impression que c'est un petit peu de la masturbation intellectuelle pour les gens qui aiment les jeux indépendants, de la même manière que Truffaut, même si sur la forme, Godard. Je trouve que Godard, même si sur la forme, c'était dans l'histoire du cinéma, la nouvelle vague était un truc hyper important parce que ça amenait une nouvelle forme au cinéma qui était très justement formatée et formalisée. Et là, il y avait une sorte d'explosion de créativité. Autant, il y a certains films de cette nouvelle vague qui, soyons honnêtes, c'était quand même de la masturbation intellectuelle et de la différence pour dire qu'on fait différent et du délire d'auteur pour le délire d'auteur. Là, vraiment, si on n'accroche pas, je crois que ça, il faut accrocher pour que ça ait cet attrait fou. Et il caresse les gens qui aiment l'indé dans le sens du poil. Donc, je comprends que ceux qui aiment ce genre de truc apprécient, mais c'est comme conseiller un jeu comme Call of Duty à quelqu'un qui n'aime pas les jeux de tir militaires. Tu vas dire forcément, ça va pas te plaire, c'est pas ton truc quoi. Et là, dire ah mais c'est incroyable, c'est merveilleux, genre dire ça devrait plaire à tout le monde, c'est pas ce qu'ils disent explicitement, mais genre en disant c'est le meilleur jeu de l'histoire. Moi, je suis très attaché à cette manière d'évaluer les jeux en disant c'est pour les fans du genre, les jeux et tous les produits culturels, c'est pour les fans du genre ou c'est tellement bien que c'est pour tout le monde. Celui-là, je pense que les fans du genre vont l'adorer, mais je le mettrai pas dans une catégorie où je me dis il est tellement bien que tout le monde devrait l'essayer parce que tout le monde va l'aimer, tu vois. C'est pas, il réussit pas à transcender sa catégorie de jeux, de petits jeux, enfin bon. Bref, voilà, je vais pas passer 2 heures dessus, mais c'est mon c'est mon impression sur ce jeu-là. Ensuite, je sais qu'il y a des gens qui l'adorent, mais
Ah oui, non, mais et puis donc comme je te disais, moi, ce titre de meilleur jeu de tous les temps, enfin que ce soit en jeu vidéo, en cinéma, en ce que tu veux, enfin ça veut rien dire parce que ça dépend des gens qui votent à ce moment-là, ça dépend de ce qui se passe dans le monde à ce moment-là, ça dépend de plein de choses, et tu peux enfin de tous les temps, ça me gêne un petit peu.
Bon, c'est un petit peu volontairement provoque.
Ouais, non, mais ça, je comprends bien.
Mais je crois que tu sais, il y a quand même des jeux pour lesquels on peut comprendre. Je veux dire, si tu prends un, je sais pas moi, Mario 64 ou Final Fantasy 7 ou Super Smash Bros. Melee ou Ocarina of Time même, tu dis bon, ok. Je vois ce que le truc a fait, je vois ce que
ouais, mais
Undertale
en plus
il vient de sortir.
T'as une composante Madeleine de Proust et tout ça. Enfin, c'est... Donc,
mais
c'est
justement,
pas objectif,
tu vois,
c'est pas objectif.
Mais c'est jamais objectif et je pense que la composante Madeleine de Proust entre toujours en ligne de compte.
Et oui.
Donc,
et oui.
Le fait que Undertale, qui est sorti il y a un mois, soit dans le classement, c'est un petit peu compliqué de se dire, ok, bon, c'est difficile de dire meilleur jeu de l'histoire. Mais comme il y a la composante Madeleine, la composante Marvel, j'allais dire, donc la composante Madeleine, je peux le comprendre. Là sur Undertale, même ça se comprend pas parce qu'il vient de sortir. Donc.
Ouais.
Bon, voilà. Bref, je suis sûr que les gens qui apprécient comment dire, le jeu viendront nous dire dans les commentaires de l'émission ce qu'ils en pensent.
Au bûcher.
Ouais. Et d'ailleurs, on a le chat sur le rendez-vous tech. On a fait un petit chat sur Slack pour les gens qui sont sur le Patreon au niveau 3$. Et les gens, j'ai fait une petite chaîne, le rendez-vous jeu. Donc les gens commencent déjà à discuter de tout ça et de Undertale. On a eu des conversations très intéressantes sur le sujet là-bas. Donc si bon, vous êtes, il y a pas de Patreon pour le rendez-vous jeu, mais si vous êtes Patreon du rendez-vous tech à 3$ ou plus, vous pouvez aller participer aussi. Mais sinon, sur les notes de l'émission, ça marche très très bien également. Alors ensuite, PlayStation Now, le service de jeux vidéo en streaming, qui vient d'avoir une option à $100 par an aux États-Unis, il arrive en bêta en Europe. Alors malheureusement, c'est pas en France encore, c'est je crois en Allemagne, au Luxembourg, enfin il y a quelques pays comme ça, 3-4 pays. Oui, c'est Allemagne, Pays-Bas, Belgique, Luxembourg. Et c'est possible de s'inscrire à la bêta, donc on peut imaginer que bientôt ça arrivera dans le reste du monde, enfin dans le reste du monde, dans le reste de l'Europe. Donc voilà, si vous êtes intéressé par ce service qui est disponible sur PlayStation 4, PlayStation 3, PS Vita et PlayStation TV, et même sur certaines télé Sony et Samsung, bah voilà, ça peut être intéressant pour vous. Il y a effectivement une option, enfin il y a aujourd'hui presque 300 jeux PS3 jouables en streaming, dont une bonne partie des gros jeux de la PS3. Donc vous n'avez même pas besoin d'acheter une console en fait. Vous avez la télé de Sony qui convient et vous pouvez jouer à tout ça avec un abonnement à aujourd'hui moins de 10€ par mois.
Ouais, c'est intéressant pour ceux qui n'ont justement pas de console. Pour ceux qui ont déjà une console, bon, moi je sais pas trop, voilà, ça fait quand même un investissement supplémentaire en plus de ton abonnement au PSN, enfin ouais,
bon, c'est indépendant du Plus. PSN, mais ouais.
Ouais, 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 oui, mais bon, généralement t'as une PS4, tu payes ton PSN Plus, quoi.
Oui. Donc moi je pense à ceux qui ont une PS3 qui traîne et qui n'ont pas.
Ouais, voilà. Ouais.
Ouais, toi, ça t'intéresserait pas, ce truc. T'as déjà ta PS4, tu joues en local.
Ben non, j'ai pas encore de PS4 parce que je suis en train de me convertir au PC Master Race.
Ah, d'accord, très bien.
Et donc, je n'arrive pas à me motiver pour acheter une PS4, en fait.
Bah, t'en as plus besoin maintenant. T'as une console, t'as un PC, donc. Bah, bon, en même temps, ouais. T'auras pas. Il y a des jeux que t'auras pas, mais.
Ouais, voilà, c'est ça.
Ouais. Bon, ok. Donc, si vous êtes intéressé par le PlayStation Now, sachez qu'il arrive. Star Citizen a atteint $100 millions de financement. Alors, on a souvent évoqué Star Citizen, hein, c'est le jeu le plus financé de l'histoire de Kickstarter à l'époque où il a fait son Kickstarter et puis il a continué sur son propre site le financement. On a vu qu'il y avait eu des scandales avec des rumeurs selon lesquelles Star Citizen n'était pas bien géré par Chris Roberts et qu'il y avait plus d'argent déjà dans les caisses, et vu les retards dans les étapes de développement et les alphas qui devaient arriver, qui sont pas arrivés, etc., ça avait fait un petit peu de bruit. Et bien, juste au bon moment, arrive l'alpha 2.0 de Star Citizen, qui implémente des éléments qu'on attendait depuis longtemps, comme par exemple une partie du... Bon, disons qu'il y a plus de d'éléments dans les vaisseaux et plus d'éléments, enfin il y a les débuts des éléments en FPS. Donc c'est enfin une avancée tangible pour les gens qui ont financé le jeu. Ça veut pas dire grand chose, ça nous rassure pas non plus complètement sur l'avenir du jeu. Je pense qu'on reste toujours, bah c'est normal, un jeu de cette ambition, ça prend longtemps à développer. Disons que c'est une bonne étape, on a l'impression que les choses avancent et voilà, donc ça va dans le bon sens et je pense que Star Citizen au niveau de sa communication en avait bien besoin d'un truc qui soit positif, surtout au moment où ça atteint les 100 millions. S'il n'y avait pas eu une bonne nouvelle au niveau du jeu pour accompagner ça, je pense que ça aurait relancé les débats, mais là on n'y a pas eu trop droit, quoi.
Ouais, après moi je sais pas quoi trop en penser non plus de ce jeu là parce que donc c'est
je te rassure, mais
Non mais voilà, c'est une sorte de concurrent à Elite Dangerous. Et donc pour avoir joué à Elite Dangerous, il a l'air beaucoup plus ambitieux quand même, puisque on a et les vaisseaux et les phases FPS. Déjà qu'Elite Dangerous est pas mal vide Parce qu'il est pas mal vaste. En fait, c'est comme la confiture. Hein.
tu peux pas. plus voilà. t'étales, plus
voilà,
c'est
fort. Voilà, c'est ouais. ça. Là, j'ai l'impression, enfin, je sais pas, de m'être renseigné un petit peu sur le contenu, etc. J'ai aussi eu cette impression-là. Les phases de FPS me semblaient un peu vides. Les phases de combat, ouais, à peu près bien, mais le reste me semblait quand même très très vide, comme Elite Dangerous. Et donc, du coup, je me demande si on va pas l'avoir dans 10 ans, en fait.
Bah, c'est très compliqué, hein, c'est toute la question, parce que Star Citizen, je pense, dans l'état actuel du projet, c'est sans doute le jeu le plus ambitieux de l'histoire. Ouais, c'est un jeu qui veut faire exploration spatiale, combat, FPS, enfin, en fait, il veut un petit peu modeler l'univers, quoi. On est dans des bases spatiales, on rentre dans son vaisseau, on s'envole, on fait des combats aériens, enfin, spatiaux, on peut faire du commerce, on peut se poser sur une planète, aller explorer une base militaire, tirer sur des aliens, revenir, enfin, c'est un truc, c'est un petit peu de la folie, quoi. Mais, bah, je sais pas. Ensuite, Elite Dangerous, tu dis par exemple que tu le trouves un peu vide. Il y a plein de gens qui adorent Elite Dangerous.
Ah oui,
aujourd'hui.
Ah non, mais donc, attention, je le trouve vide, mais j'aime beaucoup jouer à Elite Dangerous. Hein.
Ah oui, d'accord. Ouais, bah oui, c'est ça qui est, bah tu sais, c'est un petit peu la nature du jeu, hein, forcément, t'es dans l'espace, tu te fais ton propre jeu et puis voilà,
ouais,
quoi, tu te fais ton aventure, c'est la nature de ces jeux-là, mais là il y aura un petit peu plus de, l'idée c'est quand même qu'il y a un petit peu plus de matière pour les gens qui découvrent aussi sur Star Citizen, donc c'est bon, en tout cas la news à retenir c'est que ça avance et que c'est plutôt une bonne chose par rapport aux préoccupations qu'on avait il y a quelques mois. Overwatch, vous savez que je ne me lasse pas de parler d'Overwatch, eh bien on a eu une information assez intéressante il y a une dizaine de jours, c'est une vidéo surprise du directeur du jeu, Jeff Kaplan, qui a annoncé que les héros et les modes de jeu et les cartes qui arriveraient après le lancement seraient gratuites. Et ça, c'était une grosse, grosse surprise parce que vous savez que il y avait eu une sorte d'interrogation sur le modèle économique du jeu. On a eu l'information à la BlizzCon que le jeu serait payant à $40 ou €40. Et la grosse question qui se posait ensuite, c'était est-ce que les héros supplémentaires qui ne manqueraient pas d'arriver, les cartes, les modes supplémentaires seraient payants, et la grande préoccupation étant que si c'était le cas, ça diviserait la communauté. On en avait déjà parlé quand on parlait de Battlefront, etc. Et en fait, connaissant la manière de fonctionner des jeux en général et bien sûr les fonctionnements de Blizzard des jeux récents, pour leurs jeux free-to-play, évidemment, on paye un petit peu plus pour les trucs supplémentaires. Et bien là, Jeff Kaplan a dit non, tout ce qui a trait au gameplay serait gratuit. Donc ils ont des idées pour des héros supplémentaires, des modes supplémentaires, ça arrivera, mais gratuitement. Et donc c'était une grosse surprise parce que enfin moi j'étais convaincu qu'il y aurait au moins un petit peu de trucs à payer pour les héros, mais c'était... Bon, donc c'était une bonne nouvelle. La seule préoccupation que ça m'amène, c'est est-ce que ça fera que ils vont développer un petit peu moins, mettre un petit peu moins d'efforts dans le développement après la sortie du jeu, puisque justement un héros qui sort ne rapportera pas l'argent des gens qui vont le payer. Bon, en même temps, ça amène plus de gens qui sont intéressés par le jeu, qui renouvellent l'intérêt du jeu s'ils amènent un nouveau héros, et ils vont évidemment vendre des éléments cosmétiques, des costumes, on a vu les tags, etc., ce genre de choses. Mais voilà, c'est la seule petite préoccupation, mais bon, sinon, c'est tant mieux, je pense, hein, j'espère que ça sera bien. Mais...
Et oui, puis, c'est Blizzard, certains qui vont faire leur beurre sur le cosmétique. C'est sur les pré-orders, là, ils ont déjà mis des costumes sur les éditions collector.
Ouais, tout à fait, il y a des skins, ouais.
Ouais, ouais, donc ils vont faire leur beurre là-dessus, c'est clair.
Ouais, mais tu vois, c'est comme, par exemple... Si tu prends la différence entre Diablo, qui a des mises à jour de contenu, c'est sûr, hein, il y a eu plein de patchs, il y a eu 2.1, 2.3, 2.4 qui arrivent là bientôt, mais c'est en 2 ans, on a eu peut-être 4 gros patchs, quelque chose comme ça. Ce qui est pas mal, c'est bien, mais ça fait 2 ans et demi, je crois. Mais on voit un jeu comme Heroes of the Storm ou Hearthstone, pour rester chez Blizzard, ils ont du contenu tous les 3 mois, quoi. Même plus, Heroes of the Storm, il y a un héros tous les mois, même plus. Donc, Voilà, je me dis, mais en même temps, peut-être que Overwatch, ça conviendrait pas d'avoir un héros en plus tous les mois non plus, mais je sais pas. Non, donc voilà, ouais, c'est juste l'idée que, est-ce qu'ils en feront, je pense qu'il y aura du contenu régulier, mais est-ce qu'il y en aura moins qu'on aurait pu en avoir pour garder la fraîcheur du jeu si ce contenu avait été payant? Bon, ensuite, qu'est-ce qui est mieux? Je pense que oui, effectivement, dans un monde idéal, il y aura le contenu supplémentaire et tout sera gratuit. Mais bon, en même temps, et puis on a quand même ce paiement à l'origine, au début, pour faire en sorte que les gens qui sont pas du tout intéressés par le jeu et qui joueraient un petit peu n'importe comment ne viendront pas. C'est pas un jeu gratuit où les gens téléchargent pour l'essayer et puis pourrissent la partie des autres. Il y en aura un petit peu moins, a priori, parce que c'est pas un jeu gratuit. Mais bon.
Et après, faut pas non plus oublier qu'il y a toujours possiblement l'extension.
Bah, en fait, pas vraiment, parce que là, il a été assez définitif. Hein. Il a dit le jeu sera, enfin, les contenus additionnels, les héros et les cartes et les modes seront gratuits.
Ouais, mais si tu fais, enfin,
À mon sens. Non, à mon sens, ça sort, l'extension, c'est pas possible. Ce qui est possible, c'est que dans 2 ans, on ait un Overwatch 2, par exemple. Ça,
oui,
peut-être. Mais même ça, c'est vraiment compliqué parce que ils ont des ambitions e-sport visiblement assez importantes avec Overwatch. Et du coup, ça me paraît compliqué de faire un 2 parce que tu divises complètement ta base. Et donc voilà, c'est...
Bon, Street Fighter le fait, hein.
Ouais, mais c'est tu vois, c'est long, hein. Street Fighter 4. il était sorti quand?
Ah oui, non, mais le Street Fighter 4, le Super Street Fighter machin, le super hyper truc,
avec
constamment une remise à jour, un rééquilibrage, et voilà.
C'est presque un modèle extension, en fait, sur Street Fighter 4. Ouais. Mais le 4 lui-même était sorti en 2008. Bon, on verra. D'ailleurs, à propos d'e-sport, après Blizzard qui a ouvert un département e-sport, on a vu que EA était en train de lancer une division e-sport qui était gérée par Peter Moore. Et du coup, enfin, c'est une grosse info, quoi, une vraie division e-sport dédiée chez EA. Entre ça, le bruit que fait Twitch depuis un moment, YouTube Gaming, la division e-sport d'Activision Blizzard, etc., moi, je me demande, je veux dire, si 2016, c'est pas une année où il va se passer un truc spécial pour l'e-sport. Et si l'e-sport est pas en train de passer à un autre niveau. Et je sais que il y a plein de gens dont le premier réflexe va être de dire mais Patrick attends de quoi tu parles, il y a l'e-sport, ça fait longtemps que c'est devenu populaire, t'as jamais vu Twitch, League of Legends, Hearthstone, machin. Je suis pas idiot. Oui, je sais que l'e-sport est populaire et gagne en popularité depuis longtemps. Ce que je veux dire, c'est que je me demande s'il y a pas un truc encore plus fort qui va se passer en 2016, peut-être 2017, parce que aujourd'hui, mine de rien, l'e-sport est cantonné aux fans d'e-sport. Et il y a beaucoup de fans de jeux vidéo qui seraient intéressés par l'e-sport. J'en fais partie, je regarde un petit peu de temps en temps, et j'en parle d'ailleurs dans cette émission, de certains événements e-sport. Mais un truc que j'ai remarqué, c'est que c'est hyper difficile d'avoir accès au contenu e-sport. Si tu sais qu'il y a un championnat qui a lieu quelque part, ne serait-ce que si tu veux voir un match ou la finale ou un truc, il faut aller chercher sur le site du truc ou sur Twitch des replays qui font 8 heures et tu sais pas où est le début du match, quel truc regarder. Il n'y a pas de résumé comme on pourrait l'avoir pour un match de foot, une émission qui te résume les meilleurs moments de l'e-sport ou juste une émission de sport. Moi, j'adorerais avoir une émission hebdomadaire d'e-sport qui me résume tous les trucs importants et intéressants qui sont passés dans le monde de l'e-sport. Et qui me montre tout ça sans que j'aie à aller chercher dans des replays interminables sur Twitch, quoi. C'est invraisemblable qu'il n'y ait pas encore un moyen simple pour les fans de jeux vidéo au moins, parce que bon, je pense pas que ça va intéresser quelqu'un qui a jamais joué à un jeu vidéo encore, hein, on n'y est pas encore, d'aller voir une partie de Dota par exemple ou de Hearthstone, mais pour les fans de jeux vidéo, même si vous jouez pas spécifiquement à ce jeu-là. Moi, j'ai vécu des parties de StarCraft où je regardais parce que dans le contexte, bah, j'étais là au bon moment, etc. Et c'était passionnant. Et j'adorerais pouvoir avoir ça dans une émission simple à regarder qui me résume ça ou qui me montre les matchs qui comptent sans que j'aie à aller chercher dans des heures de replay, quoi. C'est invraisemblable que ça existe pas encore. Donc je me demande si ces divisions de gens, bah on parlait d'adultes tout à l'heure avec Kojima, je me demande si c'est pas les gens sérieux, les adultes, les gens qui savent comment présenter le sport classique dans d'une manière qui soit attrayante pour les gens en général, sont pas en train d'arriver et vont pas faire un truc qui étendent l'attrait de l'e-sport un petit peu plus loin que les fans d'e-sport aujourd'hui. Moi, j'adorerais avoir une émission qui me résume League of Legends, Dota, CSGO, Hearthstone, etc., etc. Enfin, même les jeux de combat, Street Fighter, etc., etc. Et qui me fasse, je sais pas, une émission hebdomadaire qui dure une demi-heure, une heure, ce qu'il faut, peut-être même plus, et qui me résume tout ça. Mais pourquoi ça existe pas encore? Si ça existe, venez me le dire, quoi.
Eh ben oui, ben justement. Alors je sais pas s'ils le font toujours, mais sur la petite chaîne de télé No Life, il y avait une émission. Je sais pas si elle existe toujours. Il y avait une émission qui s'appelait Skills, et où justement il y avait des rediffusions de matchs avec des commentateurs dessus et parfois même les joueurs qui revenaient sur leur partie et qui expliquaient, etc. Et c'était vraiment chouette à regarder. Donc ça existait sur No Life, mais à l'heure actuelle, je sais pas si ça existe encore.
Bah oui, malheureusement, moi j'ai pas No Life. Et puis ensuite, tu sais, je pense qu'on est à l'heure d'internet, on n'a pas envie de se connecter au moment où passe l'émission. Peut-être qu'ils ont sur
No Life. Ils ont leurs émissions dispo sur nos cours.
En replay, ouais. Bah peut-être qu'il faudrait que je regarde ça effectivement, mais moi, enfin, je me dis aujourd'hui c'est malheureux, hein, mais si c'est pas sur YouTube ou Netflix ou un truc comme ça, voilà.
Ouais, je comprends tout à fait. Je comprends tout à fait le point de vue et je suis d'accord pour dire que oui, il se passe quelque chose. Il y a quelque chose de sous-jacent là qui va émerger parce que
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
L'indicateur dont tu n'as pas parlé, en fait, c'est qu'on en entend de plus en plus parler dans les médias généralistes et que c'est de moins en moins choquant pour la ménagère, en fait.
Ouais. Donc, mais tu sais, moi, c'est même sans aller jusqu'au choquant pour la ménagère. Bon, c'est un indicateur, comme tu dis, c'est général, mais... Moi, je pense qu'avant d'aller chasser dans les médias généralistes, il y a même pour le public des joueurs en général qui sont pas spécifiquement amateurs d'e-sport qu'on peut déjà aller récupérer des spectateurs et grandir la popularité de l'e-sport, quoi.
Ah, mais moi le premier, hein. Moi le premier, je suis absolument pas à courir après, mais quand je tombe dessus et que je trouve ça comme toi, je trouve ça effectivement passionnant et c'est fou de voir ce qu'un joueur peut réussir à faire comparé à ce que nous on peut faire.
Ouais, c'est sûr. Bah, je vais aller voir du côté de Noco. Si vous savez s'il y a des émissions de ce type là que j'aurais raté, enfin, et du coup je me dis mais où ils sont, pourquoi ils font pas plus de, ils sont pas très bons pour se faire connaître, quoi, parce que j'ai quand même des antennes un peu partout dans le jeu vidéo. Mais si vous avez des émissions de ce type en français ou en anglais, moi je suis très curieux de regarder ça et je suis prêt à me plonger là-dedans, quoi. Mais je vais regarder déjà du côté de No Life. D'ailleurs, si vous avez le nom de l'émission, je serais pas contre parce que
c'est Skills.
No Life, Skills, je vais le mettre tout de suite. Merci beaucoup. Ensuite, on parlait de jeux de combat, justement. Tekken 7, il y a eu une mise à jour inattendue avec un nouveau personnage qui a été présenté pour la version, Fated Retribution, la nouvelle version qui sera la version qui arrivera sur PlayStation 4, avec un nouveau personnage. Est-ce que tu connais bien l'histoire de Tekken, toi, Jean?
J'ai bien connu l'histoire de Tekken jusqu'au Tekken 3. Et puis après, je me suis perdu dans les circonvolutions des tag tournaments, des machins, et donc là, j'ai très vite décroché. Mais jusqu'à Tekken 3, ouais, je sais, ça va, je suivais à peu près. Et pour avoir vu la petite vidéo que t'as mis en note, j'ai pas été trop perdu.
D'accord. Bon, effectivement, vous l'aurez compris, le personnage qui a été ajouté, eh bien, n'a absolument rien à voir avec l'univers de Tekken, puisqu'il s'agit de Akuma de Street Fighter. Et c'est marrant parce qu'on voit que Katsuhiro Harada et Yoshiori Ono sont les producteurs des deux jeux respectifs, sont hyper potes depuis quelque temps on se doutait, mais on sait qu'il y a Street Fighter Cross Tekken et Tekken Cross Street Fighter. Je sais même plus lequel est sorti et lequel n'est pas sorti. Enfin, c'est celui de Namco qui n'est pas sorti. Donc ça doit être Tekken Cross Street Fighter.
Ouais. Namco, c'est Tekken.
Ouais. Non, mais je veux dire, oui, c'était le jeu à le nom du développeur. Bref, voilà. Mais donc, c'est pas forcément pour nous faire attendre pour l'autre. Visiblement, ils disent qu'il est encore sur les projets. Moi, j'ai un peu des doutes, mais en tout cas, on aura Akuma dans Tekken. Et c'est vrai que Tekken a une histoire d'avoir une tradition d'amener des personnages un petit peu inattendus dans les jeux. On a vu, par exemple, je sais pas si vous vous souvenez de Gon, le petit...
J'ai adoré Gon dans Tekken 3.
Qui était assez marrant, effectivement. Qui faisait ses tournicotis, qui te mettait sa queue dans les pieds, c'était insupportable.
Et qui avait une attaque à base de paix.
Oui, aussi, tout à fait. Voilà. C'était... Donc Tekken a tendance à faire des trucs un petit peu moins sérieux, on va dire, dans le monde des jeux de combat. Et là, il y aura Akuma.
Mais comme tu disais, de voir les deux là sur scène, alors récemment plusieurs fois on les a vus sur scène en train de se chercher, en train de se chamailler, en train de se balancer des vannes, et tu sens qu'il y a vraiment un truc, ils ont envie de bosser ensemble, enfin de se faire un truc marrant, quoi.
Ouais.
C'est chouette quand t'as deux grandes licences comme ça qui chamaillent
bien, c'est
gentiment,
genre, ouais.
Voilà, c'est vraiment chouette.
C'est en fait, t'as l'impression que c'est des deux potes de deux groupes de deux groupes différents,
ouais,
qui se rejoignent et qui sont potes aussi, donc c'est cool. Et sinon, justement, Bandai Namco est en train de teaser un jeu. Alors le teasing sera fini dans 3 ou 4 heures là, au moment où on enregistre.
14 heures.
Voilà. Donc dans quelques heures à peine, au moment où vous écouterez cette émission, ça sera sans doute déjà fini. Bon, on ne sait pas exactement
ce qu'il
s'agit.
Est-ce que tu veux qu'on fasse durer l'émission jusqu'à 14 heures, histoire?
On va peut-être éviter. Il est à peine 10 heures, donc. Et ça a l'air d'être un truc. Il y avait un teasing sur le Twitter de Bandai Namco France. Pouvez-vous ressentir cette fin # Mysterious Game. Tu sens que c'est une traduction du japonais Mysterious Game, mais pouvez-vous ressentir cette fin? Est-ce que ça a l'air d'être un truc un petit peu genre horreur, quoi, mais on verra.
Je sais pas. Alors, j'ai été voir dans les commentaires de la news que tu m'as partagée, et dans les choses qui m'ont fait beaucoup rire, il y en a qui misent sur un simulateur de machine à laver, parce qu'il y a plein de petits logos qui s'affichent comme ça. mais sinon, plus sérieusement, on parle de God Eater.
Ah, d'accord. Ah ouais, non, mais God Eater, il s'emmerderait pas à faire une pub en Europe, enfin en Occident comme ça. God Eater, c'est une sorte de Monster Hunter, très populaire au Japon, mais qui est surtout sur Vita. Enfin, ça m'étonnerait qu'il fasse un branle-bas de combat comme ça en Occident aussi. Hein. Mais on verra peut-être, pourquoi pas. Mais moi, ça me paraît peu probable. Mais bon.
Ouais. Rendez-vous à 14 heures.
Voilà. System Shock 3. et il y a eu une sorte de leak sur le fait que System Shock 3 était dans les cartons. Alors, qu'est-ce que c'est que System Shock 3 ? Jean, tu m'as dit que tu connaissais parfaitement bien le
jeu. Je ne sais absolument pas ce qu'est System Shock.
Est-ce que tu sais pas,
peut-être je vis dans une grotte, je ne sais pas. Mais...
Non. C'est un jeu qui est un petit peu ancien, hein, System Shock quand même. Est-ce que tu te souviens d'un autre nom qui se termine en choc et qui serait sorti il y a pas très longtemps.
BioShock.
Exactement. En fait, BioShock est l'héritier spirituel, en tout cas la volonté de Ken Levine qui avait travaillé sur System Shock 2 qui était sorti en 99 si je ne m'abuse, de faire quelque chose qui était un petit peu dans la veine moderne de System Shock, on va dire. Pas tout à fait, mais c'était l'idée. Sur le premier, c'était Warren Spector, etc. C'était Origin Systems qui avait développé System Shock 1 en 94. Donc, ça date. Hein. C'était avant Windows 95, tu vois. Donc, c'était un jeu qui était lancé sous DOS ou peut-être sous Windows 3.1, mais non, on savait que c'était sous DOS, quoi. Donc,
j'avais pas encore eu mon brevet, encore.
Voilà, exactement. Ça date. Mais c'est un jeu qui a vraiment marqué beaucoup de gens. Moi, j'avoue que j'y ai pas vraiment joué. 99, j'étais au Japon et 94, bah, je sais pas, je suis passé à côté. Mais c'était vraiment un jeu, c'était une sorte d'action, role-playing, first person, machin, qui était très ambitieux pour son époque. Et donc, il a laissé dans l'imaginaire des joueurs quand même pas mal de traces. Bon, aujourd'hui, c'est plus les mêmes équipes qui sont derrière. Il y a plus Ken Levine, il y a plus Origin Systems, mais bon, donc on va voir, hein, pourquoi pas. System Shock 3, il y aura sans doute une annonce officielle bientôt. Je voulais le mentionner parce que System Shock, c'est un truc qui a marqué certains esprits, mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en reste ? Bah, c'est une grande question, quoi. À laquelle on aura peut-être une réponse quand le développement sera annoncé. Valve et HTC, ça, on a vu que il y a un moment, ils ont annoncé que le Vive sortirait en avril 2016 en version finale, en version consommateur. Donc voilà, ça commence à se préciser. Hein,
mais même pour les développeurs, je crois.
Oui. Alors pour les développeurs, ça serait 2016, c'est ça. Donc, ouais, c'est 2015, il y aura définitivement, certainement rien. Au niveau du Vive, pour les développeurs, on pensait avoir quelques versions aux développeurs en 2015, finalement non. Donc oui, clairement 2016. Moi, je dirais même 2016, ça va être l'année vraiment des early adopters pour la réalité virtuelle.
Attends. Tu nous as dit que 2016 c'était l'année de l'e-sport et maintenant tu nous dis que c'est l'année de la VR. Il va falloir choisir, Patrick.
Ouais, ça peut être l'année des deux, non? C'est l'année de l'e-sport en VR. Tu mets ton casque pour voir. Non. Ce que je dis sur l'e-sport, c'est que je pense ça va commencer à sortir du carcan e-sport en 2016. Enfin, j'espère. Je sais pas. Je me demande s'il va se passer un truc. Mais pour la VR, non. Ça, c'est encore plus définitif. Je pense vraiment que 2016 sera l'année où la VR. Enfin, c'est même pas. Je pense. C'est sûr. Ça va commencer à sortir en 2016. Mais à l'époque où j'ai commencé à dire ça, c'était à l'époque où on pensait encore que les premiers casques seraient disponibles mi-fin 2015. Mmh. Pour moi, ce que je voulais dire, c'est que non, 2015, ça sera vraiment le tout début early adopter et il n'y aura rien vraiment avant mi-fin 2016, rien d'intéressant. Et là, je suis en train de me dire, on est encore en train de décaler, quoi. Bon, 2016 pour moi va être l'année où on va commencer à essayer de comprendre ce que veut dire la réalité virtuelle et on va les early adopters, les gens qui veulent faire partie de cette aventure vont commencer à plonger mi-2016 on va dire. Mais vraiment ça va pas être intéressant pour le grand public. À mon sens, avant 2017, parce qu'au début, on va avoir plein de trucs qui veulent rien dire, des expérimentations, des petites démos, des trucs où on va dire « Oh, regarde, là, tu peux te balader sur Mars, ouais, super. Et là, tu as un jeu où, au bout de 10 minutes, tu as le tournis et tu as envie de vomir parce qu'on n'a pas encore bien compris comment gérer le déplacement. » Dans la vie, je sais pas si vous vous souvenez, les plus vieux d'entre vous et d'entre nous d'ailleurs se souviendront peut-être des débuts de la 3D avec la PlayStation 1 et même la PlayStation 2, il a fallu des années pour savoir comment placer les caméras. Pendant des années, pendant 2 ans, 3 ans, les caméras, c'était une horreur. Il y avait des jeux où par moment, tu pouvais pas jouer parce que la caméra allait n'importe où. Ça a l'air idiot maintenant parce qu'on sait, on a appris, les développeurs savent comment bien placer une caméra dans un jeu en 3D. Mais ça a pris du temps à comprendre. Et à mon sens,
il y avait même dans les magazines, il y avait même des paragraphes spécifiques pour les placements de caméra, des paragraphes de critiques dédiés au placement de caméra à l'époque.
Ouais, exactement. Donc c'est pas facile de comprendre tous ces systèmes et de les apprivoiser en fait. Donc oui, pour moi, 2016 aujourd'hui, plus ça va, plus vraiment ça va être clairement un moment d'apprentissage quoi. Donc voilà, mais c'est très bien, hein. On va voir. Et la réponse de si la réalité virtuelle est intéressante ou pas, à mon sens, ne viendra pas en 2016. Peut-être qu'elle viendra en 2017. On ne saura pas encore en 2016. Ça sera trop tôt, quoi. Voilà. On a vu un brevet de Nintendo qui est un truc un petit peu bizarre. En fait, imaginez une manette de PlayStation avec le devant qui est entièrement en fait un écran tactile avec juste les deux petits joysticks qui sortent, les joysticks physiques, mais tout le reste c'est un écran tactile, et c'est une manette qui a une forme d'écran un petit peu oblong comme ça en ovale, et c'est un écran, il y a des manettes qui sortent. Alors bon, c'est un brevet, hein, on ne sait pas du tout si ça veut dire quoi que ce soit, ça se trouve c'est juste un brevet, mais ce qui était intéressant, c'est qu'on avait eu il y a un an une rumeur selon laquelle Nintendo travaillait avec Sharp sur des écrans de forme non conventionnelle, c'est-à-dire ni carré, ni rectangulaire, ni même rond. Et souvent, Sharp utilise ce genre de technologie pour faire des écrans pour des affichages dans les voitures, des dashboards,
sur les tableaux de bord.
Sur les tableaux de bord dans les voitures. Et on se disait à l'époque, ah bah ça doit être pour leur truc quality of life, Nintendo, ils doivent avoir des écrans d'une forme bizarre, ça doit être pour ça. Et là, on se dit, c'est peut-être pour leur fameuse console NX qui se déclinerait en version portable de salon, etc. Et là, ça serait peut-être pour une sorte de truc portable qui serait en fait une manette avec un écran intégré, ou on ne sait pas très bien ce que ça veut dire, mais bon, je ne sais même pas ce que ça veut dire, mais c'est bizarre, quoi.
Ouais, c'est très bizarre. J'ai très peur de cette manette. Elle m'a fait très peur quand je l'ai
vue. Ouais, c'est un petit peu un Frankenstein technologique, quoi.
Ah, mais complètement. Et surtout que, alors, heureusement qu'il y a ces deux joysticks qui dépassent de chaque côté, parce que, sinon, t'as pas de retour au niveau de la sensation. T'as pas de retour de bouton. Ce qui peut être extrêmement perturbant, déjà.
Et. Bah, c'est le gros problème des jeux sur téléphone mobile.
Exactement. Parce que, en plus, si on te demande de swiper quelque chose, de mettre ton doigt, moi qui transpire facilement des doigts, je déteste jouer sur mobile et pour cette raison-là, c'est pas agréable, c'est pas machin. Enfin voilà, j'ai peur.
Ouais, bah, en l'occurrence, il y a effectivement les joysticks, donc ça résout ce problème. Et je pense que si on a les joysticks, on a le repère tactile des joysticks. Ensuite, les boutons, ça peut aller. Tu dis, tu mets un bouton à droite du joystick, un bouton à gauche du joystick pour chaque doigt, même si c'est un bouton tactile. Bon bah ça va, tu peux et en fait il y avait aussi des boutons sur les index, sur les tranches.
Oui, sur les oui.
Donc il y en a deux des physiques quoi. Mais oui, L et R en fait, c'est ça. Mais bon, je me dis s'il y a ce repère tactile, ça peut donner quelque chose. Mais bon, ensuite l'écran, il a une forme bizarre. Enfin, je sais pas. Mais on verra. L'idée est intéressante en tout cas d'avoir au moins les joysticks physiques, parce que c'est ça le gros problème sur les jeux tactiles.
Oui.
Mais bon, plus d'informations sans doute à l'E3 pour la présentation de la NX. On imagine que ça se passera à ce moment. L'UFC que choisir s'attaque à Valve. L'UFC que choisir, c'est très important qu'ils soient là. C'est très important qu'ils fassent le travail qu'ils font. Ils ont tendance à faire autour de Noël des coups médiatiques pour qu'on n'oublie pas de parler d'eux, quoi. En l'occurrence. J'ai l'impression que bon, ils s'attaquent à Valve en disant les comptes sont pas assez sécurisés, on peut pas revendre les jeux. Oui, OK, sur le principe, je comprends, mais c'est le problème de tous les médias numériques. Je sais pas pourquoi spécifiquement Valve avec les jeux, mais oui, mais surtout que dans l'ensemble, je crois que s'il y a un public qui se plaint un petit peu moins du fait qu'on peut pas revendre les jeux, c'est peut-être le public de Steam, parce que justement les jeux sont tellement bon marché pendant les soldes que ça compense, quoi. Surtout qu'aujourd'hui on peut sans aucune question, sans rien, se faire rembourser un jeu si on y a joué moins de 2 heures. Enfin, pour la plupart des cas. Bon, enfin, ensuite voilà. Et ensuite il parle de la question des comptes piratés. Dieu sait que Valve fait tout ce qu'ils peuvent pour faire en sorte que les comptes soient pas piratables avec des protections double facteur, etc. Enfin voilà, bref, la UFC que choisir, encore une fois, c'est important qu'il soit là. Je suis pas certain que cette action-là soit la plus justifiée.
Ah non, surtout que Valve a déjà subi une attaque en justice en Allemagne. Et ils ont gagné. Ils ont gagné parce que l'Allemagne n'estimait pas que ça violait les règles allemandes. Mmh.
Donc ensuite, ouais.
Après, c'est des points de détail que tout utilisateur un petit peu conscient sait c'est pertinemment quand il va sur Steam que bah il peut pas revendre, il peut pas faire ci, il peut pas faire ça. Enfin voilà, c'est on découvre rien du tout là.
Ouais, je crois que si la question de la vente d'achat numérique, de biens numériques doit se poser, c'est effectivement une question qu'on peut se poser et qui est tout à fait légitime. À mon sens, bon, il y aurait tout un débat à faire là-dessus, mais c'est pas spécifiquement chez Valve. Alors oui, peut-être qu'il faut bien commencer quelque part, mais je me dis que c'est plus intéressant de poser la question je sais pas. Peut-être Valve, pourquoi pas. Mais pour moi, même le problème, c'est que cette question est pas tout à fait pertinente. On pourrait en débattre, mais la question du numérique, même, c'est une question qui est pas pertinente. Et puis, on touche à plein de choses, les DRM, le piratage, la justification des DRM sur un média infiniment copiable. Enfin.
Ah oui, bah tu vois qu'on va la tenir notre émission jusqu'à 14h.
Bon, parlons plutôt, on arrive au bout là, parlons plutôt d'un autre brevet qui est celui des mini-jeux pendant les écrans de chargement. Est-ce que tu te souviens de Ridge Racer plus sur PlayStation 1
Oui, écoute, ta news m'a fait beaucoup rire parce que je savais même pas qu'il y avait un brevet là-dessus quoi. Enfin oui, je me rappelle très bien, on a passé de très bons moments sur ce petit Galaga là.
Ouais, bah c'était Galaxian, je crois.
Je me rappelle pas exactement du nom, mais
genre. Ouais. Attends, je vais regarder, je vais vérifier.
Je crois que c'est ça, hein, ouais, Galaxian.
Ouais, ouais, ouais. Et oui, c'est ça. Et donc il y avait effectivement sur l'écran de chargement qui était un petit peu long, hein, à l'époque, les temps de chargement c'était vraiment important. C'est imaginez un petit peu Fallout 4. Bah c'était pour ça, pour presque tous les jeux en fait, voilà, à l'époque. Non, ma blague n'a pas porté. Mais en fait c'était donc il y avait des grands écrans de chargement et Namco avait mis dans le Ridge Racer, qui était l'un des jeux de lancement de la PlayStation 1, un petit jeu pendant l'écran de chargement, et ils avaient déposé un brevet pour le truc, et ça fait 20 ans. Et en fait, personne n'avait, je pense que le brevet n'aurait pas tenu, mais personne même s'était emmerdé à faire la chose, parce qu'ils disaient, bah oui, il y a le brevet, on va pas s'emmerder à aller en justice pour ça. Puis en plus, assez vite, les temps de chargement sont devenus de moins en moins gênants. Et voilà. Mais donc maintenant, enfin, on pourra avoir des mini-jeux pendant un chargement, dans un autre jeu. Ouais, super, non? En fait, c'était juste une raison pour moi d'évoquer Ridge Racer sur PlayStation 1. J'y ai passé tellement de temps sur ce jeu.
Non, mais ça m'a beaucoup fait rire de savoir qu'il y avait un brevet là-dessus et que ça y est, il était enfin expiré. Ouais,
tout le monde s'en fout. Riot est maintenant entièrement détenu par la société chinoise Tencent. Tencent, c'est un énorme géant chinois, surtout dans le jeu vidéo. Et ils ont leurs doigts un petit peu partout. Ils ont même une partie d'Activision Blizzard. Et maintenant, ils avaient déjà une grosse partie de Riot, qui est l'éditeur League of Legends, bien sûr. Et maintenant, ils ont tout. Donc, ils ont tout League of Legends, qui est un énorme truc. Évidemment, ça veut dire qu'il y aura des changements a priori pour les employés de League of Legends. Vous savez que les joueurs de League sont payés un salaire par Riot, les joueurs professionnels, enfin une grosse partie en tout cas. Il y aura des intéressements plus importants, etc. Ça a l'air d'aller plutôt dans le bon sens. Mais voilà, c'est intéressant de savoir que aujourd'hui League of Legends est entièrement une société chinoise en fait, enfin mais détenue par une société chinoise.
Que devient Riot du coup ?
Ah bah Riot, c'est juste une société qui est détenue par la holding Tencent Holdings Limited.
D'accord.
Donc voilà, c'est pas. Ils ont aussi des parts dans Epic, comme je disais, dans Activision Blizzard, si je ne m'abuse, etc., etc. Donc, bon, c'est juste une holding quoi. Ils ont plein de trucs. Leur le principal de leur activité est en Chine. Hein. Ils ont énormément de sociétés en Chine aussi, mais voilà. Donc c'était pour les fans de League of Legends, c'est une information importante. Et puis enfin, Twitter a nommé un Director of Gaming. Là encore, ça montre à quel point le jeu vidéo est important dans le monde d'aujourd'hui. Je pense qu'on n'a plus besoin de le présenter comme ça, mais c'est intéressant de voir que Twitter veut faire des partenariats. En fait, ça ne veut pas dire qu'on va pouvoir jouer à des jeux vidéo sur Twitter, mais ça veut sans doute plutôt dire qu'il va y avoir des partenariats avec des événements peut-être qui seront relayés sur Twitter de manière un petit peu plus importante.
Mais d'accord, bon. Ouais, faire du live tweet d'event e-sport par exemple.
Ouais, par exemple, je sais pas exactement quelle forme ça va prendre parce que personne n'a besoin d'un partenariat vraiment avec Twitter, mais on peut se dire qu'il peut y avoir, de la même manière qu'il y a de partenariats avec YouTube pour certains trucs. D'ailleurs, il vient de YouTube, Rodrigo Veloso. C'était l'ancien directeur du contenu, du gaming content chez YouTube. Donc, bon, peut-être qu'ils vont faire des opérations particulières pour le jeu vidéo sur Twitter. Voilà, pour les news principales, il y a un dernier truc que je voulais évoquer. C'était un tweet de Trevor Noah, qui est, vous savez, un comique qui est maintenant le nouveau présentateur du Daily Show, qui avait longtemps été géré par Jon Stewart, émission américaine de Comedy Central, Comedy Central en anglais. Et yeah. Vous savez que je parle souvent de la question de la notation des jeux vidéo. Et moi, comme je l'évoquais tout à l'heure à propos d'Undertale, j'aime bien l'idée que on dise c'est un jeu pas assez bien, c'est pas bien. Enfin oui, on peut aussi, mais plutôt dire c'est un jeu pour les fans du genre ou c'est un jeu qui est tellement bien que tout le monde pourrait l'aimer. Ou alors carrément, c'est un jeu qui est pas bien.
Alors, juste une parenthèse là sur la notation du jeu vidéo parce que je l'ai juste dit. En tout petit dans les commentaires il y a des mois et des mois, mais ça m'a fait donc vous en avez parlé deux fois dans le rendez-vous jeu et à chaque fois ça me fait énormément sourire parce que là je vais parler de mon métier, mais c'est exactement les mêmes préoccupations sur la notation du jeu vidéo et la notation à l'école.
Et oui, parce que toi t'es prof, hein, précisons.
voilà et enfin, à chaque fois, ça me fait beaucoup rire parce que connaissant donc les deux mondes, il suffit juste de remplacer deux, trois mots et les débats sont exactement les mêmes. C'est très, très drôle.
Bah alors, peut-être qu'il faudrait noter les élèves, genre, pourrait réussir dans cette catégorie, est tellement intelligent qu'il peut faire ce qu'il veut dans la vie, ou alors, non, il est pourri, c'est pas la peine d'insister. Moi, je pense qu'à notation en trois étapes, c'est pas mal.
Le dernier n'est pas assez politiquement correct.
Non, et puis surtout, je suis convaincu que pour les élèves, c'est pas forcément le cas. On peut toujours en rattraper un. Il suffit de trouver ce qui lui plaît. Bon,
voilà.
La plupart, on va dire qu'il y a quelques rares exceptions partout.
Et la manière de le raccrocher à ce qui lui plaît.
Exactement. Oui, donc Trevor Noah disait, mais c'est intéressant, ça serait peut-être un débat à avoir un jour. Trevor Noah disait, pour la difficulté dans les jeux vidéo, alors il parle pas des notations, hein, mais il parle de la difficulté, les paramètres de difficulté, il faudrait pas que ça soit facile, difficile, machin, il faudrait que ça soit j'ai un vrai boulot, j'ai un boulot à temps partiel ou je suis au chômage. Et ça, c'est les niveaux de difficulté, en fait. Et c'est marrant parce que ça, pour moi, ça parle un petit peu aussi de cette question de la difficulté vraiment... Enfin, il y a des jeux... Sur le style des Dark Souls, j'en parlais sur Twitter il y a un moment, je disais il faudrait qu'on trouve un nom pour les jeux de ce style. Je jouais à Titan Souls d'ailleurs que j'ai acheté avec ma série de jeux achetés sur Steam qui, entre parenthèses, il y a eu beaucoup de jeux indés et franchement je me rends compte que c'est vraiment pas mon truc, quoi. Mais et j'en ai donc essayé pas mal et c'est bon. Bref, Titan Souls, c'est un jeu qui est un petit peu à la Dark Souls et je me disais pour ce style de jeu qui sont hyper durs et qui nécessitent que tu te plies aux règles du jeu et que tu meurs plein de fois pour apprendre comment jouer au jeu, il faudrait un nom. Et quelqu'un a sorti le nom de Death Loops, les cycles de mort en fait, ou les boucles de mort. Et je me dis que c'est pas mal comme nom, les jeux Death Loops. Je trouve ça que c'est pas mal du tout pour définir ces jeux. Et ouais. Ces jeux-là, c'est des jeux pour lesquels il te faut du temps pour t'investir et pour apprendre à jouer à ce jeu, quoi. Et c'est vrai que il y a plein de gens qui disent « Ah oui, mais ça, c'est des vrais jeux de joueurs, machin. » Mais le fait qu'on ait besoin de temps pour jouer à ces jeux, c'est un facteur important. Et donc, il disait ça en rigolant, Trevor Noah, mais je me demande si c'est pas un facteur qu'il faudrait prendre en compte dans simplement l'appréciation des jeux, mais vraiment un facteur à formaliser, quoi, à dire, ce jeu-là, il te faut du temps, il faut que tu sois au chômage, bon, je rigole, mais il faut que tu sois au chômage pour pouvoir y jouer, quoi, pour pouvoir
complètement,
l'apprécier.
Complètement, je suis tout à fait d'accord, et c'est un peu ce qu'on fait, nous, dans Papa, à quoi tu joues, parce que, enfin, vraiment, la composante temps devient essentielle. Dark Souls, je l'ai essayé il y a pas longtemps et j'ai vraiment envie d'aimer ce jeu-là, mais j'ai joué 5 heures, j'ai vraiment envie de l'aimer, mais non, j'ai passé le premier boss et je meurs. Et non. Et pourtant, j'ai vraiment envie.
Mais t'as pas le temps, tout bêtement.
J'ai pas le temps et comme j'ai pas le temps, je trouve pas d'intérêt à passer autant de temps à apprendre le jeu. Parce que apprendre, ça nécessite refaire. Et non, moi j'aime bien la diversité, j'aime bien machin. Et non, voilà quoi.
Ouais. Donc peut-être que, enfin, vous avez un système de notation similaire pour le temps nécessaire, genre papa, genre en nombre d'enfants en fait, tu pourrais dire. Ça c'est possible pour un enfant, c'est possible pour trois enfants. Là, c'est hyper facile.
Alors... De temps en temps, on dit c'est possible pendant la sieste, c'est possible pendant les biberons, c'est possible.
Ah, c'est pas mal aussi, ouais, c'est vrai. Ouais, voilà. Donc. Ouais.
Et juste aussi, il y a une autre composante, parce que j'ai eu la discussion il y a pas très longtemps avec un joueur, justement sur la difficulté. Et quelque chose qu'on occulte vraiment souvent, c'est en fait que. En termes de temps aussi, mais aussi en termes d'accessibilité pour les joueurs handicapés. Parce que donc la personne avec qui je discutais me disait que en fait elle commence donc un joueur handicapé commence toujours en facile et sa courbe de progression va se faire une fois qu'il a terminé le jeu une fois en facile parce qu'il peut jouer par exemple qu'à une main. Eh bien, il va le faire. Le niveau de difficulté au-dessus. Et ça, c'est une composante aussi que les développeurs ne prennent pas en compte, mais sur laquelle c'est aussi intéressant de réfléchir.
Ouais, effectivement. Bon, c'est un petit peu plus spécifique quand même.
Oui, on est d'accord.
Mais ouais, c'est intéressant aussi, c'est sûr. Mais bon, donc voilà, cette histoire de temps, moi, je me dis, il y a peut-être un axe de réflexion là-dedans, dans cet aspect difficulté et temps, faire correspondre un petit peu les deux, parce que la manière dont on l'évoque un petit peu souvent dans les paramètres de difficulté en disant ça c'est pour les gens qui ont l'habitude ou c'est si vous voulez juste suivre l'histoire pour la version facile ou ce genre de truc, mais peut-être tout simplement qu'il faudrait penser à ça de manière plus directe, quoi, combien de temps ça prend. Mais bon, bref. Voilà pour cette dernière petite réflexion. Et ben justement, on arrive à la fin de l'émission. Merci beaucoup, Jean, d'avoir été avec nous. Est-ce que tu peux nous dire, nous parler un petit peu plus de ce fameux Papa à quoi tu joues que tu évoquais à l'instant?
Eh bien oui, je peux. Donc voilà, donc je réalise et co-anime donc Papa à quoi tu joues, qui est un podcast mensuel audio sur le jeu vidéo qu'on enregistre depuis peu en live sur Twitch et dans lequel on analyse, on se complète assez bien parce que toi tu analyses les événements factuels de l'industrie du jeu et nous on analyse plutôt le côté société, le côté humain avec des études sur les jeux, avec de la pratique, des analyses de pratique, etc. On invite aussi, on a chaque mois un invité que j'interview pour nous parler de sa démarche, sa pratique et sa vision du jeu vidéo. Et on conseille aussi donc des jeux aux parents, des jeux qui peuvent se jouer soit avec les enfants, petits ou grands, à chaque fois on le dit, ou soit tout seul, parce que il faut savoir se faire plaisir aussi. Et donc ça, c'est papa à quoi tu joues, et j'ai refait mon site internet il y a pas longtemps, donc vous pouvez y aller, il est tout beau, tout neuf.
Magnifique, super, c'est sur papaacquoitujoues.fr.
Voilà, c'est ça.
Super, merci beaucoup Jean, et si vous êtes un parent joueur, peut-être que ça vous intéressera effectivement.
Ou quelqu'un de très occupé,
c'est vrai. Pour ma part, je suis Note Patrick sur... Tu as dit ton papa à quoi tu joues sur Twitter ?
Ah non, papa à quoi tu joues sans S, parce qu'il n'y a pas assez de lettres sur Twitter, c'est pas une faute. Et Facebook, Google, Plus, qui n'est pas encore mort.
Ma part, c'est Note Patrick sur Twitter et sur Facebook. Vous pouvez me retrouver là-bas si vous avez des choses à me faire, à me dire, si vous voulez
faisons des choses à Patrick.
Envoyez des gifs de ce que vous voudriez me faire quand je dis que Undertale est complètement overhypé. On l'évoquait dans l'émission ZQSD qu'on a enregistrée la semaine dernière, et l'un des animateurs disait, oui, moi je le trouve overhypé, et moi j'avais pas encore joué, et là je suis complètement d'accord avec lui. Et il y a une faction pro-Undertale qui était vraiment pas contente. Donc j'imagine qu'ils auront quelques mots choisis pour moi sur Twitter ou Facebook. N'hésitez pas à venir me dire ce que vous en pensez. Et vous pouvez aussi retrouver l'émission sur frenchspin.fr. Vous y retrouverez aussi d'autres émissions, comme par exemple le rendez-vous jeu. Non, ça c'est cette émission dont on parle maintenant. Le rendez-vous tech. Vous retrouverez aussi l'émission qui s'appelle Positron, l'émission qui s'appelle Upload, etc., etc. Il y a plein de choses à découvrir sur frenchspin.fr. N'hésitez pas à y faire un tour. Je vous souhaite un excellent Noël, d'excellentes fêtes de fin d'année. Et un très très bon nouvel an, plein de bises, merci à vous tous de nous avoir suivis dans cette année qui a été la première année complète, la vraie année du rendez-vous jeu. Je l'évoque de temps en temps sur Twitter, on est d'ailleurs entre parenthèses dans le top des meilleurs podcasts de l'année.
Oui, d'ailleurs, félicitations.
Merci d'iTunes, qui reste le catalogue de podcasts de référence. Donc c'est un podcast qui a à peine plus d'un an et déjà on est dans les meilleurs podcasts sur iTunes. Je ne sais, et évidemment c'est parce que vous avez répondu présent, vous appréciez la formule, donc merci mille fois à vous tous d'avoir été présents pendant cette première vraie année du rendez-vous jeu.
C'est l'effet Patrick.
J'ose espérer que c'est surtout que l'émission est de qualité, quoi.
Ça aussi l'effet Patrick.
Oh, qu'il est gentil. Bien joué, merci Jean. Mais d'ailleurs, en parlant d'iTunes, si vous appréciez l'émission, c'est les fêtes de fin d'année, vous avez un moment à perdre, passez donc sur iTunes ou sur n'importe quel autre répertoire de podcast que vous utilisez, et si vous pouviez laisser une review surtout cliquez sur le nombre d'étoiles que vous pensez que vaut l'émission. Ça prend vraiment 2 secondes, vous allez sur iTunes ou ailleurs, vous cliquez sur le nombre d'étoiles, à la limite vous laissez une review, ça serait hyper hyper gentil de votre part. Et tiens, je lirai quelques reviews l'année prochaine si j'y pense, pour le prochain épisode, j'essaierai d'y penser, de lire quelques reviews. Ça aide énormément l'émission à gagner en visibilité. Donc, merci mille fois de votre soutien. Excellente fête de fin d'année. Et on se retrouve début 2016 pour un nouvel épisode avec encore plein de news jeux vidéo qui seront encore plus intéressantes, j'en suis convaincu, dans cette année 2016. Plein de bises à tous. Merci encore d'avoir fait cette année jeux vidéo ludique pour le rendez-vous jeu ce qu'elle est. Et on se retrouve dans 15 jours. Ciao à tous.
Ciao à tous, joyeux Noël, jouez bien.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.